Alors, je vais vous présenter un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle « Les montagnes humaines ». Il écrit sur Tita Piaz, qui était surnommé le diable des Dolomites. Tita Piaz est né en 1879, il est mort en 1948, bêtement d'un accident de vélo, alors que c'était un très grand alpiniste. C'est un Autrichien de naissance. Et il a été le premier à conquérir la Punta Emma. Donc, je présente d'abord ce commentaire. Et ensuite, vous aurez le texte de Tita Piaz. J'aime d'abord le personnage de Tita Piaz. Même s'il pratiquait l'alpinisme avec rigueur, il ne se prenait pas lui-même au sérieux. Il avait un grand sens de l'humour et beaucoup de recul sur sa pratique. L'humour n'est pas si fréquent dans la littérature de montagne, où le drame est souvent privilégié. Tita Piaz aimait tout simplement la vie, le rocher, les femmes, les voyages, l'escalade, dont il avait une conception quasi charnelle. Il a évolué dans les Dolomites durant les premières décennies du XXe siècle, ou à une époque où l'escalade se faisait en cheminée. Il était très fort en la matière. Il a réalisé de nombreuses premières dans ce massif, notamment au Tour de Vajolet. Certaines voies de ce secteur portent son nom et renvoient directement à sa personnalité. Comme il le raconte dans son livre, la Punta Emma, un sommet de 2617 mètres, est un hommage à Emma, la servante du refuge Vajolet, située à proximité, dont il était secrètement amoureux. Cette ascension est aujourd'hui un grand classique. Tita Piaz avait des sortes d'intuitions aériennes et créait des voies très pures, droites, qui lui ressemblaient, notamment au Spigolo du Sas Pordois, qui porte aujourd'hui son nom. À travers sa controverse avec Paul Preuss, l'autre alpiniste en vogue de cette période, Tita Piaz incarne un versant solaire de l'alpinisme. Preuss plaidait pour un alpinisme sans aucune aide et refusait notamment le recours au rappel. Il était pour l'escalade libre, à la montée et à la descente. C'était réussir ou mourir, et il est mort à 27 ans. Paul Preuss était un jeune homme un peu autiste, solitaire, attiré par la mort, sinon par une forme de sacrifice. Il avait un côté presque mystique. Piaz, a contrario, incarnait la vie. À la différence de Preuss, il défendait un alpinisme de bonheur et de sécurité. La plus belle course est celle dont on revient entier. Cette controverse a constitué un moment charnière de l'alpinisme, un carrefour dont les conséquences ne sont pas anodines. Suivre la voie prônée par Preuss aurait conduit à une toute autre pratique de l'alpinisme, puriste, extrême. Tout le monde suit les recommandations de Piaz aujourd'hui. On fait du rappel, on s'assure. Je me suis toujours située du côté de l'alpinisme, plaisir que Piaz incarne avec un petit air facétieux. Il se considérait comme très laid et ne se faisait aucune illusion sur son charme physique. Il regrette dans le livre que cette laideur, qui rebutait certains de ses clients en montagne, n'ait jamais fait peur ni à ses créanciers ni à sa femme. Il avait laissé courir la légende selon laquelle il avait conclu un pacte avec le diable, lequel lui aurait donné un onguent diabolique dont il s'enduisait le bout des doigts et qui lui permettait ainsi de tenir sur les parois les plus lisses. En grimpant un jour en solitaire dans le massif du Catinaccio, qu'il connaissait très bien, il a croisé une cordée qui lui a demandé s'il était bien le diable. « C'est normal », a-t-il répondu, « puisque je lui ressemble. » La face nord de la pointe Emma. Je ne connais pas de maître plus irréductible, plus intransigeant que l'estomac. Il n'est pas de sophisme ou d'axiome capable de l'apaiser. Pour lui, une seule chose compte, la pitance. À cette époque radieuse, mon enthousiasme pour la montagne, pour l'escalade, était immense. Mais peut-être le vrai mobile, c'est intentionnellement que je dis peut-être, avait-il un nom, la lutte pour la vie. La face nord-est de la pointe Emma, à laquelle personne n'avait osé penser, m'aurait donné l'immortalité. Et un beau jour, où était arrivé du palace du col de Carezza un groupe important d'alpinisme de salon sous la conduite du docteur Christo Manos, je me lançais à l'assaut. Ce n'est pas tout à fait par hasard, on peut le penser, que je saisissais l'occasion. Je n'avais pas grande confiance en la réussite. Mais devant un tel public de profanes, un échec ne ternirait pas d'excessive façon les lauriers que j'allais certainement cueillir en gravissant simplement la moitié de la paroi. Et, de plus, je tenais sans doute à me produire devant le docteur Christo Manos, personnalité marquante du club alpin austro-allemand. Je ne m'élevais guère qu'à mi-hauteur de la paroi, jusqu'à cette fissure parfaitement fermée par un surplomb qui est précisément la clé de l'escalade. Je multipliais les tentatives spectaculaires devant ce public de naïfs qui me regardait la bouche ouverte et au grand effroi de la gérante du refuge qui me voulait du bien. Elle était la seule personne au monde à me comprendre et à prendre mes misères en pitié. Une fois convaincue qu'on ne passait pas là sans s'exposer à un grave danger et que pour courir un tel risque, il fallait au moins avoir non pas une contrefaçon d'espadrille, mais des espadrilles dignes de ce nom, on les appelait alors les chaussures de chat, et mon grand rêve était d'en posséder une paire. Quand donc je crus avoir assez fait pour démontrer à tout un chacun que je n'étais pas un lâche, je redescendis. Au refuge, je fus accueilli par les hôtes de l'hôtel Carezza avec des exclamations, des sourires, des poignées de main. Les vainqueurs de la face nord de les guerres n'ont certainement pas reçu un plus bruyant accueil. Le docteur Christo Manos manifesta son admiration d'une manière moins platonique. Il me mit dans la main 17 florins en me disant « Mon cher Piaz, achetez-vous une bonne paire d'espadrilles et vous réussirez. » Aujourd'hui encore, je garde le souvenir reconnaissant de ce geste généreux. Un geste dont j'ai toujours tenu compte, même lorsque, sur le plan politique, le docteur devint mon ennemi juré et chercha à me nuire. On dit que si la veille de Waterloo, le guide qui accompagnait Napoléon avait tout simplement répondu « oui » à une question que lui posait l'empereur à propos de la topographie du dit champ, ou en tout cas avant que Milo ait reçu l'ordre de faire donner les cuirassiers, la carte de l'Europe eût été changée. Petite cause, grands effets. Toute proportion gardée, cela aurait bien pu être mon cas. Si Christo Manos ne m'avait pas fait cadeau de ses 17 florins, je serais peut-être devenu un méchant maître d'école, plein d'amertume, dégoûté de tout et de tous, comme un déclassé dans une situation qui n'est pas faite pour lui. Peut-être, à l'heure qu'il est, voyagerais-je dans ce pauvre monde, avec une odeur de sacristie dans mes vêtements bien brossés, avec l'humble maintien du sujet moyen et comme il faut, pleurant l'Autriche perdue et le doigt toujours mouillé d'eau bénite, et surtout l'échine parfaitement immunisée contre ce mal de l'ankylose qui me fera souffrir jusqu'au tombeau. Dès lors, j'eus les espadrilles réglementaires et je cessai de jouer le rôle de cette mouche qui s'étant enfariné la tête, se prenait pour un meunier. Peut-être aussi commençais-je à comprendre, ce jour-là, que pour être un bon grimpeur, au vrai sens du mot, la témérité, l'ambition, le besoin pressant d'argent ne suffisent pas. Je me mis à penser sérieusement à l'escalade de la face où j'avais échoué, et je me mis en quête d'un compagnon, car je savais qu'il s'agirait d'un duel à mort. Mais tout le monde me rit au nez. Alors, je pris la décision d'essayer seul. Une décision où entrait un peu de fatalisme oriental et une grande confiance en mon habileté. La proximité immédiate du refuge, aussi, et le voisinage d'êtres humains m'était un encouragement. Même si l'on ne pouvait me porter secours en cas de besoin, la seule pensée qu'on pouvait, en cas de catastrophe, récupérer mon corps me donnait un sentiment de tranquillité presque métaphysique. Et il me semblait bénéficier d'un avantage énorme par rapport à Winkler, dans la première ascension de sa tour. Qui peut connaître les fils invisibles qui font mouvoir les marionnettes humaines? Et un beau jour, après avoir fait à Mademoiselle Marietta la promesse solennelle que je ferais demi-tour s'il y avait trop de danger et que je ne m'exposerais pas inutilement, je courus à l'attaque. Les détails de l'escalade, je les ai complètement oubliés. Je me rappelle seulement le grand nombre de gens qui regardaient depuis la terrasse du refuge. Et quand j'arrivais au point critique, le fameux surplomb, après l'avoir bien étudié, j'eus une crise de conscience. Je compris que le bilan ne m'était pas favorable. La fissure dans laquelle je ne pouvais introduire que la main gauche était longue de plusieurs mètres et paraissait surplombée. En cet instant, la seule fois de toute ma vie d'alpiniste, pour autant que je me souvienne, je jouais quitte ou double avec la vie. Je n'avais examiné ni les reliefs minuscules ni les autres possibilités. Je ne connaissais pas encore cet évangile, pour moi proclamé plus tard, qu'il faut grimper surtout avec les yeux et la tête. Et Preuss, fulminant du haut de sa chair resplendissante, n'avait pas encore énoncé sa thèse séduisante et chevaleresque. On n'a pas le droit de faire à la montée un passage que l'on ne se sent pas de redescendre sans moyens artificiels. Réussir ou mourir, tel était le problème. Et je partis avec la seule aide de la main gauche. Bien sûr, à cette époque, la vie n'avait pas pour moi que des attraits. Parfois, le couvercle du cercueil peut représenter une solution qui n'est pas absolument terrifiante. Comment ai-je fait? Je l'ignore. Mais je réussis parce que je fis appel à toutes les qualités qui font l'homme et le grimpeur. Force, souplesse, jeunesse, amour-propre, ambition, parce que je livrais bataille pour la défense de mon propre moi, réveillé par un instinct de conservation élémentaire et désespéré. Ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti, lorsque, après quelques mètres, je pus enfoncer dans la fente tout d'abord mon bras gauche, puis le genou, je ne saurais le décrire. On ne décrit pas le ciel. L'émotion du damné qui, du milieu de la fournaise, apercevrait à l'improviste la sortie de la gêne, serait à peu près celle qui m'empoigna quand j'eus introduit mes membres épuisés dans la fissure devenue cheminée. Il n'était plus question de faim, ni de pain, mais de la vie. C'était là démence pure, et pourtant, même si je ne puis la justifier, je ne la regrette pas, car toute folie de jeunesse a son côté de lumière. Nous sommes aujourd'hui à l'âge du surhomme de l'escalade. Aujourd'hui, le plus obscur des membres de la confrérie compte pour le moins à son actif l'escalade d'une paroi de 600 mètres au minimum est tellement lisse qu'en comparaison, la vitre de la fenêtre fait figure de champ labouré. Aujourd'hui, en cet endroit, 46 ans après, il y a deux pitons d'assurance que l'on utilise même comme un escalier. Et cela suffit, ce me semble, à montrer la distance qui sépare dorénavant l'art du grimpeur d'aujourd'hui de ce qu'il fut un temps. Ma technique à l'époque était très poussée. J'étais très agile et parfaitement entraînée. Pourtant, je ne puis ni ne veux justifier ce geste insensé ni en atténuer la portée. Même en admettant qu'à l'origine de cette perte du contrôle de moi-même, il y a purement et simplement l'ambition. Car au fond du trou, à mi-pied, tout près du refuge, un public nombreux jouissait du spectacle dans l'attente du triomphe ou de la tragédie. Mais à dater de ce jour, on me prit au sérieux. Même les vrais alpinistes, qui regardaient avec respect la sombre, l'effrayante muraille, vaincue pour la seconde fois 7 ans après seulement. Ce fut une victoire assez silencieuse. pas de point d'exclamation. Je commençais à devenir un véritable alpiniste. Tirer le diable des Dolomites.